Et vous écoutez France Culture. Et il n'y a rien d'immortel sous les étoiles. Romain Lucaso. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Grand chambardement cosmique ce soir à Mauvais Genre qui reçoit Romain Lucaso, auteur chez De Noël de L'Assium, péplum intergalactique ou space opéra cornélien, saga lemnitzienne où le théâtre grand siècle et les questionnements de la métaphysique occidentale chevauchent aux côtés de Dan Simmons et de Yann Banks en second temps d'émission, chronique SF et pour finir un grand air d'accordéon qui nous sera joué par Antoine Guillon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre et je salue sans plus tarder Romain Lucaso, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes l'auteur, je le répète, donc de L'Assium, qui est vraiment l'événement SF du trimestre. On pourrait même dire beaucoup plus que du trimestre, sans doute de l'année, puisque c'est quand même une somme de près de 900 pages, extrêmement ambitieuse, où, au-delà de tout un travail littéraire très très abouti, eh bien vous avez ambitionné de faire dialoguer, je dirais, le théâtre, la métaphysique, la science-fiction elle-même, et puis toute une série de problématiques technologiques et philosophiques, le tout donnant ces deux volumes extrêmement étonnants. Donc paru chez De Noël dans la collection Lune d'Angle, soyez le bienvenu.
Merci.
Et vous serez aux côtés de Jean-Claude Duniac, qui se fait rare sous nos latitudes à Paris, en tout cas. Bonsoir, Jean-Claude.
Bonjour, mais j'aurai le plaisir, j'espère, de revenir.
Voilà, vous êtes le bienvenu. Donc Jean-Claude Duniac, écrivain, donc auteur de L'Œil du Héron, ton dernier recueil de nouvelles paru à l'Atalante, et puis toute une série, évidemment, d'autres recueils de nouvelles et de romans. Il est avec Jean-Luc Rivera. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Luc Rivera, qu'on ne présente pas à Mauvais Genre, puisque très régulièrement, il nous y parle de science-fiction. Et puis, il y a évidemment l'accordéoniste maison, Antoine Guillot. On vous connaissait plutôt comme pianiste, Antoine Guillot. Qu'est-ce qui se passe? Une vocation tardive?
Vous savez que l'accordéon, on l'appelle le piano à bretelles, donc je suis tout à fait bien pour vous parler de ces livres qu'on déplie sur plusieurs mètres, 23 mètres, c'est un record que je vais vous décrire tout à l'heure.
Alors 23 mètres, vous pouvez charger peut-être plutôt des 12 premiers ou des 10 premiers?
Non, c'est 23 mètres recto verso, donc ça en fait 46 en fait.
Très bien, bon bah écoutez, vous nous signalerez quelle est la longueur et l'espace que vous aurez traité. Mais avant cela, bien évidemment, nous ouvrons l'encyclopédie pratique des mauvais genres à la lettre H, je pense.
Exactement, à la lettre H comme Alliard, Michel Alliard.
Il existe d'autres mondes. Il existe d'autres mondes, et si on porte un regard autre, on va les percevoir, ces mondes. Et moi, c'est à travers les objets, à travers leur énergie, qui m'ouvre des portes vers le monde auquel appartiennent les objets. Alors, notamment le monde animal, c'est un monde qu'on connaît bien et mal, à la fois, parce qu'on ne sait pas exactement, on n'a jamais été dans la tête d'un animal, on ne sait pas comment il perçoit le monde. Enfin, on se doute, on sait qu'on a fait des études sur les chiens, qu'ils ne voient pas toutes les couleurs, mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer, nous humains, que si notre sens principal est l'odorat, quelle serait notre perception du monde? C'est-à-dire qu'on ne verrait pas ce qui ne nous intéresse pas, on verrait simplement ce qui a une odeur qui nous intéresse, qui est liée à la nourriture. Donc on imagine que si on met un chien là dans mon atelier, il va être heureux. Il va être heureux comme tout, parce qu'il va, retrouver des tas de sensations, il va évoluer à l'intérieur de quelque chose qui va lui parler. Il va pas du tout être intéressé par un tabouret, alors que nous, si on est fatigué, c'est le premier truc qu'on va voir. Mais il sera intéressé par toutes les matières qu'il y a ici, quoi. Et donc le monde qu'il va voir, le monde qu'il va percevoir, est complètement différent du nôtre.
Entrer dans l'atelier de Michel Alliard, c'est pénétrer dans un antre. Ce sont ses propres mots. 140 mètres carrés remplis d'objets qui se sont accumulés au fil des années de Chine et de brocante. Une collection de peaux de bêtes, crocos, zèbres, alligators, chèvres, des rouleaux de parchemin, un cabinet de vanité avec sa collection de diablotins, des poils de bêtes en tout genre, des plumes, des cornes, des bijoux, des os et des vanités, des crânes, dont un étonnant crâne humain surmodelé. Michel Alliard vit jour et nuit au milieu de ces objets qu'il assemble afin de créer des mobiliers, essentiellement des sièges, des trônes, où la présence animale et l'art de Michel Alliard se mêlent pour former des pièces uniques. De là à voir ces meubles comme des fétiches, il n'y a qu'un pas à franchir et que l'on effectue allègrement, puisqu'en ce moment même, Michel Alliard expose certaines de ses pièces en compagnie des photos de Claude Alexandre, photographe du sadomasochisme. Dans la galerie Sparte, à Paris, en dialogue avec ses photos, on peut ainsi découvrir des fauteuils, fouets, colliers et autres objets confectionnés par Michel Alliard avec ses matériaux de prédilection. Des objets dont les titres mettent sur la voie Barbarella, Gwendoline ou bien ce maître Valentino.
C'est une petite chauffeuse qui a un gros enroulement devant, une grosse crosse derrière, avec des cornes de bélier qui dépassent de chaque côté. Et sur ces cornes de bélier, j'ai fixé des petits serpents de bronze qui créent un espace où on peut glisser une corde. Derrière, il y a un anneau aussi qui permet de se fixer. Quand on s'assoit à califourchon sur cette chaise, on peut passer les avant-bras sur les circonvolutions des cornes et aller jusqu'à l'anneau. Donc de là à qu'on puisse accrocher les poignets, il n'y a pas loin. Ce qui permet d'avoir le corps en position penchée vers l'avant et en attachant aussi éventuellement les chevilles. Bon, c'est une possibilité, mais il y en a plein d'autres et que je laisse aux spectateurs le plaisir d'imaginer.
En tout cas, des fauteuils avec lesquels on peut jouer sur la contrainte et sur la position.
La contrainte, la position, le jeu, oui. Et aussi le nombre de personnes qui peuvent s'asseoir, qui peuvent utiliser le fauteuil. Parce que bon, la plus grande pièce fait 2 mètres de long. C'est une espèce de grand serpent en alligator noir. Surmonté d'un genre de joue de bœuf. En fait, c'est une paire de cornes avec des attaches de carrioles où on passait des brides de chevaux en haut. Donc, on peut hisser, on peut mettre des palans, on peut mettre des choses, etc. Mais on peut être plusieurs sur cette pièce, quoi, sans problème. Du plus quotidien au plus coquin.
L'exposition s'appelle Fétiche avec 2 H et se tient jusqu'à la fin du mois à la galerie Sparte rue de Seine à Paris. La scénographie est signée de Richard Lellier, les photos de Claude Alexandre et le mobilier de Michel Alliard. Et pour en savoir plus sur l'univers de Michel Alliard, je vous encourage à aller sur son site, c'est un vrai voyage en soi, www.michel-alliard.com.
Merci Céline pour cette entrée. Michel Alliard, donc l'encyclopédie pratique des meubles. Jean-Romain Lucaso, je ne vais pas vous demander comment c'est meublé chez vous, mais est-ce que vous vous intéressez à ce type d'artisanat mauvais genre ?
Absolument pas, c'est très spartiate chez moi.
Oui, vous avez harmonisé à la fois votre univers imaginaire et votre décor intérieur.
Exactement, il y a des colonnes, il y a des lits pour s'étendre et faire des orgies, c'est extrêmement lean.
Ah, il y a quand même des orgies,
un point
bien. J'espère qu'un jour,
nous
retrouverons pour une célébration romaine. On peut également retrouver Céline Duchesnay en podcast sur le site de France Culture, puisque cet après-midi a été diffusée votre Une vie, une œuvre consacrée à la danseuse Isadora Duncan, une réalisation de Laurent Polleret qui a été saluée comme elle se doit par la presse, ma chère Céline, puisque vous avez eu l'une des plus grandes décorations qu'on puisse recevoir quand on est producteur à France Culture, c'est les 3 T de Télérama. Encore bravo. Donc ça, c'est effectivement, là il y a aussi un peu d'antiquité chez Isadora Duncan, il y a la volonté de retrouver une espèce de pureté primitive peut-être,
l'art hellénique et le goût de l'antiquité. Voilà. Mais c'est surtout un portrait de femme libre, sans corset, cheveux lâchés, pieds nus, qui dansait à une époque où c'était pas trop à la mode.
Et c'était la sœur, si mes souvenirs sont bons, de Raymond Duncan.
Exactement.
Qui ouvrait rue de Seine à Paris, une académie où l'on pouvait retrouver ce qui était l'esprit de la vie antique. Voilà qui nous rapproche de notre invité de ce soir, Romain Lucaso, l'auteur de L'Assium.
Woo!
Sven Greenberg, Ingus, Cypress, la playlist de Mauvais Gens, composée comme tous les samedis par Laurent Polleret. Alors, Romain Lucaso, on va d'abord vous découvrir, puisque c'est votre première publication romanesque. Elle a été précédée par, évidemment, beaucoup de publications de nouvelles, d'articles. Vous animez également un site, donc les familiers de l'univers SF en France vous connaissent bien. Mais là, véritablement, c'est votre première publication à ce point visible, Latium, chez De Noël. Vous vous définissez, je cite une communication au blog de Bifrost, comme un scribe ayant pris la clé des champs, parce qu'effectivement un scribe vous êtes normalien, agrégé, vous avez été professeur à Paris 4, vous êtes consultant pour de grandes administrations françaises, donc au départ vous étiez quand même promis, je dirais à l'ENA ou à des choses, et puis brusquement la clé des champs. Alors qu'est-ce qui a fait que Romain Lucaso a pris la clé des champs? Est-ce que c'est l'appel de la fiction littéraire? Est-ce que c'est la volonté de remettre en cause certaines choses?
Alors c'est malheureusement moins romanesque que l'appel de la fiction littéraire.
Je suis là pour vous transformer en personnage de roman.
Merci beaucoup. En revanche, en effet, quand j'ai quitté le monde de l'université, où j'étais enseignant en sciences politiques, pour partir dans le secteur privé, en même temps, j'ai commencé à écrire de la science-fiction, ce qui était d'une certaine manière une façon de continuer à faire, peut-être pas de la philosophie, mais du moins quelque chose qui ressemble à de la pensée ou à de la problématisation des choses par la bande, un peu comme Michel Tournier continue à faire de la philosophie en écrivant Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup Michel Tournier de ce point de vue-là. Ça correspondait sans doute aussi à des motifs qui étaient plus personnels. L'univers académique, c'est un endroit où vous êtes écrasé par l'immensité des savoirs, la complexité des problèmes, etc. Où vous vivez de vos publications aussi, et donc où c'est des choses qui sont sensibles. Et quand vous partez vers le secteur privé, donc vous êtes un idiotesse, comme on dit en grec, c'est-à-dire un simple particulier, bah vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, y compris des choses un peu tirées par les cheveux et plus difficile à accepter selon les canons académiques comme la science-fiction.
Donc vous avez refusé ce statut du professeur qui publie, comme l'ont été Julien Gracq et tant d'autres. Il y a un modèle que vous citez, c'est Cyrano de Bergerac, et vous évoquez également une méthode de libre-pensée, et vous aussi la volonté chez vous de créer des appareils de réflexion qui échappent un peu à la doxa classique. Donc là aussi, ça pouvait mieux se faire à l'extérieur de tout cela.
Ça pouvait mieux se faire à l'extérieur de tout ça. Alors, j'irais pas dire que j'avais un projet extrêmement cohérent. Je constate avec une dizaine d'années de recul que je travaille sur des questions d'automatisation et de robotique dans mon vrai travail. Je réfléchis à la transformation digitale de mes clients. On discute souvent de comment le travail va être substitué par de l'automatisme, du logiciel, etc. J'écris un roman de science-fiction, où j'ai écrit des textes de science-fiction, y compris un roman de science-fiction qui porte sur ces sujets-là. Donc, effectivement, on finit toujours par converger l'ensemble de ces centres d'intérêt vers un même ensemble de choses. Et on a des petites obsessions qui reviennent, effectivement, à intervalles assez réguliers.
Jean-Claude Dugnac, vous qui êtes ingénieur à haut niveau chez Airbus et auteur de science-fiction, vous connaissez également ces problématiques et voir ces problèmes?
Oui, absolument. Et ça a d'ailleurs été intéressant de voir la problématique dans un livre de science-fiction, ce qui est une chose assez peu abordée. Et ce que j'ai trouvé d'ailleurs fascinant dans Latium, c'est la nécessité d'une accumulation d'informations pour comprendre l'ensemble très riche des problématiques qui s'entrelacent. Vous avez à la fois effectivement cette perspective de théâtre, cette perspective de philosophie, et en même temps une action de space opéra. Et la réflexion sur ce qu'est l'intelligence, sur la manière dont l'intelligence précède la conscience, ou au contraire lui reste parallèle sans jamais la rejoindre. Enfin, toutes ces questions-là qui sont au centre de ce que nous vivons, et ce que nous vivons y compris dans l'industrie, et matérialisé sous la forme d'un livre qui, d'une certaine façon, nous oblige à nous poser ces questions-là et à agrandir notre pensée. C'était très bien.
Alors Jean-Luc Rivera, on va vous confier la charge aussi importante de nous donner un résumé de ce qu'est Latium, mais au moins d'en définir rapidement le contenu narratif. Alors j'ai évoqué le space opéra, j'ai évoqué le théâtre cornélien et la rhétorique dramatique du grand siècle, j'ai évoqué Leibniz, donc beaucoup de choses qui apparemment ne sont pas souvent rejointes en science-fiction. Alors dites-nous-en un peu plus sur, Latium.
Tâche très difficile.
Ah mais disons vous êtes qu'on l'homme peut, des tâches difficiles.
On peut poser le décor. Nous sommes dans un univers à sans doute 10 ou 11 000 ans dans le futur, à peu près. Là, et nous sommes dans le Latium interstellaire, puisque l'Empire romain a survécu. très longuement. Et donc, nous sommes dans ce gigantesque empire, cerné par les barbares, au-delà du limès, qui a été créé par les machines artificielles. Et c'est un empire qui est vide. L'homme a disparu lors d'une hécatombe, on ne sait pas pourquoi. Il n'existe plus d'homme. Et seules les intelligences artificielles qui avaient été créées pour servir l'homme continuent d'exister et de défendre donc l'empire. Et tout l'intérêt du roman et toute l'action, c'est comment les machines vont-elles faire pour retrouver l'homme, c'est la grande quête. Comment évolue-t-elle en même temps? Comment résiste-t-elle aux barbares? Et quelque part, on vient de l'évoquer un petit peu, ça pose aussi la question du libre arbitre, parce que ces machines sont toutes tenues par le carcan, qui ressemble furieusement à des lois de la robotique qui ont été écrites dans un autre univers. Donc les machines ne peuvent pas tuer. Alors comment on défend l'Empire contre les barbares lorsqu'on ne peut pas tuer ces mêmes barbares puisque ce sont des créatures biologiques?
Alors Romain Lucazeau, au cœur de tout ce dont vient de cette fresque dont vient de nous résumer à grands traits Jean-Luc Rivera, il y a une pièce de Corneille, Othon. Donc quel a été le processus, parce que la question qu'on se pose quand on lit l'Assium, c'est quel a été le processus, je dirais, de structuration de l'ensemble? Est-ce que vous êtes parti de Corneille? Est-ce que vous êtes parti d'un questionnement métaphysique qui a pris cette forme-là? Quelle a été la chimie et l'alchimie intellectuelle qui aboutit à ces deux forts volumes?
Alors, moi, je crois à une littérature d'effet. C'est-à-dire, la question que je me pose quand j'écris, c'est quel effet je veux produire sur mon lecteur? En l'espèce, c'était ni la philosophie, ni la référence classique. Voilà, c'est une question d'esthétique. Et la question d'esthétique, de mon point de vue, c'est le sense of wonder, c'est-à-dire l'espèce de vertige métaphysique qu'on ressent à la lecture de la science-fiction. Ce vertige, il vient à la fois d'immensité en termes de décor et, comment dire, de trouble en termes de réflexion sur les choses. Donc, première chose. Et donc, moi, j'ai construit un dispositif scénique. J'aime bien utiliser la métaphore théâtrale pour décrire ça, même si c'est un roman. J'ai essayé de construire un dispositif scénique qui mette le lecteur à contre-pied et qui le fasse ressentir ce sentiment de vertige. Première chose. Deuxième chose, j'avais plus ou moins une idée esthétique à la base, parce que ça vient souvent comme ça, d'une espèce d'image. Je voulais mettre en scène des princes et des princesses de l'espace, très grands, très beaux, immortels, tout puissants, confrontés à des problématiques qui ressemblent aux problématiques du grand siècle. Et j'avais envie de ressusciter cette esthétique-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est assez central, qui est quelque chose qui est assez structurant dans une certaine littérature classique française, dont le genre, la science-fiction, est un peu coupé. Donc il y a ces deux choses-là, c'est comment on fait du sense of wonder et comment on ressuscite un espèce d'idéal esthétique qui est effectivement celui qu'on trouve dans les pièces de Corneille, de Racine. Et donc le reste en découle. Aller chercher Leibniz, on est bien.
Alors, on est mis sur réflexion sur le destin, sur les mondes, l'harmonie globale et la place de l'individu dans cette harmonie.
La nécessité, le sentiment face à la contrainte du monde, la place de la liberté. Leibniz et ensuite il y a des plaisanteries philosophiques bien sûr, mais donc Leibniz c'est ça. La référence à Corneille, au ton de Corneille, c'est la pièce de Corneille où on voit le plus la mécanique implacable du pouvoir. Dans le Cid de Corneille, on voit le personnage héroïque qui pose sa liberté face au monde. Dans Othon, vous voyez des personnages qui sont des pures machines à aller chercher le pouvoir. Donc, toutes ces références-là, elles sont tirées de la nécessité de faire marcher une grosse machine romanesque qui vise à produire cet effet de sense of wonder et cet effet esthétique, qui est un peu le point de départ.
La Voie lactée, Vagina Gentium, la matrice des peuples et la source du danger. D'ici, presque de l'extérieur, cela ressemblait à un réseau cristallin de points brillants, d'une beauté stupéfiante et glacée. L'humanité avait grandi à la bordure tranquille de la grande spirale, où les étoiles demeuraient rares et l'énergie contingentée. Sur cette grève, au-delà de laquelle il n'y avait que le désert froid, entre les super-amas galactiques, l'homme avait pu prospérer à l'abri du danger. Mais les signes, subtils, ne trompaient pas. La vie foisonnait là-bas, vers le bulbe central, baignée dans un déluge continuel de radiations nourricières. De grandes batailles éclataient parfois, étendues sur des volumes de 1000 catétophotes d'arêtes. mettaient en jeu des explosions capables de souffler des soleils entiers. Les peuplades se dévoraient entre elles, jusqu'à ce que le plus puissant chasse les autres de son nouvel espace vital, ce qui les forçait eux aussi à se ménager une place par les armes, et ainsi de suite. Le processus qui avait mené les barbares à entamer leur migration vers l'espace post-humain avait pu démarrer des centaines de milliers d'années auparavant et mettre en jeu un nombre invraisemblable d'espèces. La terreur et la violence se propageaient ainsi, de civilisation en civilisation, chacune repoussant les suivantes jusqu'au bord même du monde.
Mauvais genre, François Angelier.
Voilà un extrait de L'Assium de notre invité de ce soir dans Mauvais genre sur France Culture, Romain Lucaso. Alors là, j'ai pris une sorte de vision un peu globale, mais on aurait pu prendre des dialogues très forts entre les entités qui peuplent L'Assium. On aurait pu prendre des descriptions hallucinantes de soutes chargées d'armes, chargées de mécaniques, bourrées à craquer de dispositifs technologiques. Parce que là, vous vous régalez à détailler dans des perspectives infinies tout cet arsenal technologique. On aurait pu prendre des combats, on aurait pu évoquer les hommes-chiens. Jean-Claude Dunia, qu'il y a quand même là aussi une rhétorique extraordinaire avec des univers de langage qui correspondent à des univers narratifs.
Oui, et il y a aussi une chose qui est fascinante. Il n'y a, entre guillemets, que des personnages obsédés. Obsédés au sens où ils sont à 100% concentrés sur ce qu'est leur action, leurs aventures. Un chien, ça, les chiens que tu décris, qui sont les personnages aussi qui, d'une certaine façon, font la transition vers ce que pourrait être l'homme, tout au moins le souvenir que l'on en garde, ce sont des animaux qui ne passent pas assez de temps à se renifler le derrière les uns des autres, ou même à aller explorer ce qui se passe à la recherche d'os enfouis. Ce sont des obsédés, ce sont des gens qui sont dans le combat, sont dans la recherche, dans la transcendance, et les intelligences artificielles, bien sûr, sont dans le même cas. Mais donc, on a ce sentiment totalement implacable, comme tu l'as dans Othon, de mécanismes en permanence en recherche de pouvoir, et ils ne prennent jamais le temps de s'arrêter pour faire un bon repas, ou s'arrêter pour, regarder par le hublot la simple beauté du monde. L'émerveillement est absent, par contre, l'obsession est permanente. Et ça introduit une tension tout le long du livre qui, à un moment donné, oblige le lecteur à se dire est-ce que je suis en train, moi aussi, de me laisser emprisonner dans ce mécanisme-là? C'est un côté très, très happant, très glaçant et en même temps très, très réaliste.
Romain Lucaso.
À mon avis, c'est la mécanique du théâtre. C'est ça que j'ai essayé de retranscrire dans un univers de science-fiction. La mécanique implacable de la tragédie, vous prenez une situation donnée, cette situation contrainte contient un certain nombre de paradoxes ou un certain nombre de tensions dialectiques. Il y a un cours des choses qui va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'écrasement des personnages. Rien ne pourra les sauver, rien ne pourra changer la situation de façon radicale et offrir une porte de sortie. L'ensemble des portes de sortie qui sont offertes vont néanmoins se refermer et on va aller jusqu'à un dénouement, et c'est ça qui fait l'essence de la tragédie. Alors, le roman n'est pas tout à fait une tragédie parce que ça se termine pas totalement mal. En fait, si, c'est une tragédie. Je ne vais pas spoiler. Mais j'ai essayé effectivement de retranscrire avec des personnages de nature différente. Donc, il y a les intelligences artificielles qui sont des grands et nobles romains, des hommes-chiens qui sont des barbares homériques, enfin des grecs homériques, pardon, donc des guerriers sauvages. Il y a des personnages d'intelligence artificielle de deuxième rang qui sont, que j'ai voulu aussi, des intercesseurs entre le lecteur humain, probablement, j'espère, et des personnages d'intelligence artificielle qui sinon sont trop éthérés, trop divins, trop obsédés, effectivement, le terme est très juste. Mais tout cela sont pris dans cette dynamique implacable. Il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de choix, ils se posent de temps en temps quand même la question de savoir s'ils sont libres ou pas, dans quelle mesure, quelles implications ça a, mais j'ai voulu vraiment donner cette sensation au lecteur qu'il assistait à une pièce de théâtre classique et que ça allait mal se finir, et qu'on pouvait juste regarder le paysage défiler jusqu'au moment où ça casse.
Jean-Luc Rivera, c'est un peu ça, c'est un peu les Atrides au pays de la robotique.
En quelque sorte, parce que c'est vrai que l'obsession, dans tout le roman, elle tourne autour de l'homme, avec un grand H. Tout est conçu pour l'homme, et l'homme brille par son absence, puisqu'il y a eu l'hécatombe, on ne sait pas qui l'a causé, pourquoi, mais donc on ne peut plus recréer d'homme, ils sont absents. Et donc, on a d'un côté les intelligences artificielles, donc ces gigantesques créatures qui se sont incarnées, parce que là, au lieu du Deus ex machina habituel, on a le Deus in machina, puisque chacune de ces grandes intelligences artificielles est incarnée dans des nefs gigantesques, des descriptions absolument magnifiques, et puis elles sont dans l'URPS, et donc elles ont été conçues pour servir, et en même temps elles ne peuvent plus remplir leur but, ce qui crée la folie chez certaines, etc., puisqu'elles ne peuvent plus répondre au but dans lequel elles ont été créées. Et de l'autre côté, et ça j'ai trouvé ça aussi très fort de votre part, Romain Lucazeau, c'est... Qu'est-ce qui est créé pour aider à la quête de l'homme? C'est une race d'hommes-chiens, le chien le plus ancien allié de l'homme. Donc, et qui lui aussi a passé toute son existence, les chiens ont servi l'homme. Donc, on a les deux classes de serviteurs qui se retrouvent pour essayer de retrouver l'homme. Et donc, qui est le Graal en quelque sorte. Et ça, c'est absolument magnifique.
Romain Lucazeau ?
Il y a un jeu d'inversion par rapport au schéma classique de la science-fiction. Dans la science-fiction, classiquement, vous avez des personnages humains, les derniers humains, les rescapés d'une terrible catastrophe, qui vont chercher l'arme ultime pour renverser le cours de la guerre avec les extraterrestres. Bon, là, c'est le contraire. C'est les armes ultimes, c'est les serviteurs, effectivement, qui vont chercher le dernier humain pour qu'ils puissent appuyer sur le bouton et leur permettre d'agir comme ils devraient agir, c'est-à-dire comme des automates. Le drame des automates, c'est quand il n'y a personne pour leur dire comment faire. Donc ça, en effet, il y a un petit aspect d'inversion que j'ai voulu, que j'ai imaginé très très vite dès le départ, qui est une dimension un peu de retournement un peu ironique du genre de la science-fiction. Voilà.
L'homme ayant disparu, Jean-Claude Dugnac, on se demande est-ce qu'il faut aller en quête de son éventuelle ultime manifestation ou est-ce qu'on passe à autre chose?
Je peux dire que ce matin, je relisais Via Latte, qui est une chose que je fais régulièrement en me levant. Et la chronique sur laquelle je suis tombé, c'est un hasard, commencé par « Ce qu'il y a de bon dans l'homme, c'est le chien. C'est même ce qu'il y a de meilleur. » Et à un moment donné, je me suis dit, face à ces intelligences artificielles qui ont de l'homme une idéation, parce que ce n'est pas les gens dont on parle, c'est l'homme dans tout ce qu'il peut avoir d'abstraction. Ce n'est même pas l'homme platonicien, c'est l'homme que toute la civilisation grecque et la civilisation romaine ont façonné comme idéal à ne jamais atteindre. Et là, ça manque. Et à côté de ça, on a des chiens. Et donc la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi ne se contentent-ils pas des chiens, qui après tout sont des personnages tout à fait sympathiques, comme tu dis, homériques, donc ils apportent leur idée de l'épopée. Qu'est-ce qui manque dans l'homme que le chien ne fournit pas?
Demain, les chiens.
Par ailleurs, c'est aussi un clin d'œil. Il y a un certain nombre de clins d'œil dans le roman, un certain nombre d'auteurs de la science-fiction classique. Et en effet, c'est aussi un clin d'œil à Demain, les chiens.
En effet, puisqu'on s'est dit là, disons que la science-fiction remonte avec vous, Romain Lucazeau, à la plus haute antiquité, et c'est ainsi donc que vous êtes grand. Les aruspices de l'Ourps furent les premiers à noter des changements dans la composition atmosphérique de certaines planètes lointaines. Le schéma de croissance du phénomène était irrégulier, très lent, mais indubitable. Là-bas, dans les ténèbres lointaines, une peuplade biologique avançait vers l'intérieur du bras d'Orion et adaptait les surfaces planétaires à son propre usage. Ils approchaient par vagues capricieuses, inconstantes, au gré des aléas convulsifs de leur civilisation. Leur cycle d'expansion était prévisible sur le long terme. Aux périodes d'anarchie pendant lesquelles les barbares s'entre-dévoraient, divisés en des centaines de factions rivales, succédaient des époques d'unité raciale. De puissantes bureaucraties canalisaient les énergies destructrices vers l'extérieur, envoyaient dans l'obscurité glacée de leurs frontières le trop-plein démographique. Extrait de Latium de Romain Lucaso. Alors effectivement, se pose d'emblée la question de l'écriture, puisque vous avez réussi ce tour de force de marier, je dirais, la rhétorique de la dramaturgie classique, cornélienne, racinienne, avec par moments des moments d'angoisse pascalienne dont vous dotez quasiment les androïdes et les personnages, disons comme ça, les artificiels qui semblent touchés par le vertige de l'infini et de l'absolu, et puis avec des récits guerriers, alors là c'est la part homérique et le grand souffle de du space opéra. Alors sur le plan de l'écriture, puisque c'est quand même un tour de force littéraire, comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez travaillé par strate ou au contraire par... comment s'est passé le travail de rédaction pure?
Comme un obsessionnel,
voilà.
qui travaille effectivement par strate pendant très longtemps. J'ai travaillé sur ce texte pendant 5-6 ans, à peu près, et normalement... Je travaille par couches successives, donc j'écris une première version que je jette à la poubelle, une deuxième version que je jette à la poubelle. Quand j'arrive à la quatrième ou à la cinquième, je la réécris entièrement et ça commence à ressembler à quelque chose. C'est à peu près ce qui s'est passé là. C'est la raison pour laquelle ça m'a pris du temps d'écrire ce roman.
Mais est-ce qu'il y a un gueuloir chez vous? Parce qu'il y a quand même un souffle épique, très maîtrisé, donc on sent les périodes, on sent les cadences, on sent les points d'appui. C'est pas de la lutte gréco-romaine, mais enfin, il y a quelque chose du combattant aussi.
Les 15 premières pages ont été effectivement intégralement lues à voix haute et corrigées par...
Proférées.
Effectivement, un auditeur, enfin en l'espèce une auditrice sévère, il y a quelques années. Non, je ne l'ai pas lu en entier puisque c'est un peu long, ça fait 2 millions de signes. Mais effectivement, j'ai essayé de restituer autant que c'était possible pour un lecteur contemporain une espèce de système un peu classique de période, de rythme. Je pense que c'est important.
Il y a des pauses et puis il y a des chapitres, mais il y a quand même un flux régulier. On n'est pas dans une sorte de découpage violent. Moi, Jean-Claude Duniac, précédente sensation comme ça épique éprouvée à la lecture d'une fiction, c'était La Horde du Contrevent. Quelque chose comme ça qui avance et qui dévaste tout.
Pour moi, il y a une différence alors là de cadence. Hein, là, je parle en tant que musicien entre l'écriture.
Les deux ouvrages n'ont pas un lien aussi fort, mais dans l'affect du lecteur, je parle.
Ce que j'ai trouvé, c'est que la phrase de Romain Lucaso est extrêmement classique. Classique au sens, je dirais, du 18e ou même peut-être du début du 19e, mais plutôt du 18e, avec cette espèce de lenteur et de pause qui est directement inspiré de, par exemple, de l'Énéide qu'on a repris d'une certaine façon avec ce type de cadencement, mais qui n'est pas grec. Pour autant que je puisse en juger, la phrase grecque est beaucoup plus hachée, beaucoup plus martelée au tambour. Là, on a quelque chose de plus sinueux. Et c'est vrai que quand tu le lis, on t'a entendu le lire, on a cette espèce de longue phrase qui prend son temps de respiration. On est dans Tite-Live pratiquement. On a des phrases longues qui prennent le temps de diverger, d'avoir des branches. Et ça, musicalement, on est proche de la musique. En fait, on est proche du Lully. On n'est pas dans les tambours et les sistres qui accompagnaient l'époque grecque. On n'est pas dans Homère. De ce côté.
Le néo-barbarisme type Balérus. Ah, ouais.
Alors que justement, notre camarade de la Horde du Contrevent, et lui lui il a une écriture extrêmement rythmique, il a une écriture presque proche du rap, tellement ça martèle. On entend le couple basse-batterie pratiquement à chaque phrase, et c'est intéressant pour ça.
Jean-Luc Rivera.
Oui, il y a un souffle épique dans Latium qui m'a fait penser à la grande science-fiction de l'âge d'or, celle des ces descriptions qu'on trouve dans les pulps. Moi, j'ai pensé entre autres à un roman que j'adore qui est Les Rois des Étoiles, oui, d'Edmond Hamilton, où là aussi il y a ce gigantesque empire interstellaire et qui est absolument tout puissant, et on retrouve ce souffle épique quelque part. C'est Homère en 1940 dans l'espace. Il y a des descriptions remarquables, par exemple que quand vous expliquez comment, pour se protéger des barbares, on a les machines ont créé le limès. Et là, c'est sur des dizaines sur 100 années-lumière de profondeur, on a systématiquement tout détruit. Plus rien n'existe tout autour de l'empire. Donc on ose imaginer la tâche colossale que ça représente, simplement pour se protéger des barbares, puisqu'ils n'ont pas la technologie qui leur permettait de franchir 100 années-lumière d'un coup. Donc à partir de là, on est protégé. Et il y a un grand nombre de descriptions comme ça. La description de l'ourps aussi, quand on la découvre en arrivant avec la nef d'Othon, on reste bouche bée devant la magnificence de la description. Donc là, il y a vraiment un très grand souffle. Et puis dans les batailles aussi, quand même, on a presque, par moment, moi j'ai presque entendu, lorsque les hommes chiens sont aux armes, on entend presque la cadence du tambour derrière qui dit aux rameurs d'accélérer.
cadence des pronages, comme on dit dans Bénure, Romain Lucaso.
C'est quand même beaucoup l'Antiquité comme elle est fantasmée par le grand siècle, plus que l'Antiquité elle-même. Alors, les hommes chiens, en effet, personnages homériques qui, quand ils se battent selon les canons de l'Iliade, sont une référence plus directe à l'Antiquité. Mais moi, mon sujet, c'était vraiment d'essayer de faire revivre cette espèce d'univers qui est celui de la manière dont la culture française a, dans une de ses expressions les plus hautes, a fantasmé l'Antiquité ou a fait revivre une certaine Antiquité. Et donc, il faut vraiment le prendre comme un décor de théâtre. C'est un décor de théâtre.
Oui, c'est ça. On a vraiment ce sentiment, puisque vous affirmez, il y a même une citation qui est faite au cœur du processus littéraire, la présence de Corneille, de la tragédie classique. Il y a vraiment ce côté des grands opéras à machine qu'on pouvait voir à l'époque de Louis XIV à Versailles, qu'on a pu voir après avec Handel à Londres, avec les castrats empanachés, les trilles invraisemblables, tout ça. On est dans ces espèces de grandes festivités. Mais alors là, élevé au rang justement de spectacle cosmique.
Ouais, c'est ça, le Deus Ex Machina.
Voilà.
C'est le surgissement par le truchement du trucage et de la machine du spectaculaire dans l'expérience du spectateur. Et en plus, quand vous écrivez un roman, c'est gratos. Vous pouvez faire vous pouvez faire des effets spéciaux. C'est open bar, quoi. Donc du coup, je me suis fait plaisir, effectivement. Mais vraiment, l'idée de mettre en abîme, l'idée de théâtre. En construisant un décor de théâtre et en ayant des personnages qui disent à un moment donné les uns et les autres qu'ils ont l'impression d'être dans un décor de théâtre. Dans le roman, il n'y a plus d'humains. Un événement historique tel que nous on le connaît, avec cette humanité à quelques milliards d'individus, ça mobilise des centaines de milliers de gens. Là, ils sont pas nombreux, il y a quelques intelligences artificielles survivantes, quelques hommes chiens, et donc ils ont l'impression d'être, quand ils font des choses dont ils perçoivent l'importance, ils ont l'impression d'être des personnages qui jouent une scène sur un théâtre sans spectateur, et donc le cœur qui représente les citoyens de la ville, c'est 5 personnes. Et ça, c'est une sensation qu'ils ont eux-mêmes. L'artificialité est une thématique, moi je pense, importante dans ce roman.
Est-ce que vous pensez que, de même qu'aujourd'hui on voit souvent cette idée que le polar, c'est la meilleure manière d'écrire un polar, c'est aussi une très bonne manière de faire de la politique, concevoir l'Assium, c'est aussi une bonne manière de continuer la métaphysique sur d'autres terrains?
Alors moi, je suis un disciple de Serge Lehmann, donc et donc du coup, je pense en effet que la science-fiction est la continuation de la métaphysique. Non pas que la science-fiction ait la possibilité de se substituer à la pensée philosophique, à la réflexion académique ou universitaire, mais elle est une manière d'interroger la substantialité des choses, d'interroger le réel, d'interroger le statut de l'homme, et donc de reprendre à son compte un certain nombre de grandes réflexions qui sinon restent dans les traités. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Donc effectivement, je suis complètement d'accord avec cette affirmation.
Romain Lucaso, L'Assium, donc en 2 tomes, paru chez De Noël dans la collection Lune d'encre.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
La BO de Lucifer Rising de Kenneth Anger, choisie par Laurent Polleret pour illustrer donc notre mauvais genre de ce soir sur France Culture, qui reçoit Romain Lucaso pour les deux volumes de Latium chez De Noël. On passe maintenant aux chroniques, aux recommandations de lecture. Jean-Claude Duniac. Alors d'abord, je recommande et je resignale une nouvelle fois, j'avais déjà fait lors d'une chronique dans Les Petits Matins, L'œil du Héron, votre dernier recueil.
Le clin d'œil du Héron.
Le clin d'œil du Héron, pardon. Alors là, j'étais un peu... Ne m'en veuillez pas, je me lève tôt. Le clin d'œil du Héron, avec notamment, alors il y a moins d'androïdes qu'il y a une extraordinaire nouvelle avec un ange. Pouvez-vous nous parler de cette nouvelle avec cet ange, ses ailes d'ange.
Alors d'abord, c'est une nouvelle qui est née, comme beaucoup de mes histoires, qui est née d'un choc esthétique. Et d'un choc esthétique qui lui-même s'est produit à la Tate Modern Gallery à Londres, où j'ai vu exposer dans une caisse qui ressemblait à une caisse de guitare, une paire d'ailes immense, de la taille des ailes que l'on imagine, des ailes des anges. Et tout de suite, vous savez, quand vous êtes un écrivain, vous avez ça qui vous arrive en pleine figure et vous vous dites, qui a porté ça? Pourquoi? Et dans quel spectacle? Et qu'est-ce que ça a signifié pour lui? Et à partir de là, j'ai imaginé que la caisse de guitare était constellée de stickers. Vous savez, comme quand on est musicien, on a joué à tel endroit, on a un sticker. On a... Simplement, lui s'est fait une série de stickers d'endroits qui n'existent pas pour se rappeler d'où il vient. Et tous les soirs, ou presque, il est dans une petite ville différente. Il enfile ses ailes, il vole avec... Et il montre aux gens qu'on peut le faire tout en étant quelque chose de mécanique parce que ce sont des ailes mécaniques. Sauf que sous ces ailes mécaniques, voilà, de vraies ailes arrivent à pousser. Et la grande question, c'est quand mes ailes poussent, seront-elles assez fortes pour me soutenir? Sinon, je les tranche et je prends les ailes mécaniques qui, elles, fonctionnent. Ouais. Et moi, en tant qu'écrivain, je me suis toujours posé la question de me dire, est-ce que mon histoire va fonctionner si j'accepte de voler avec elles? Ou est-ce que je retourne vers mes procédés littéraires habituels pour la faire voler malgré tout, parce que je remplace mon inspiration par du métier? Et voilà d'où est née cette histoire, et bon, c'est ma manière.
Une des plus belles, donc, de ce clin d'œil du Héron, pardon, recueil de nouvelles paru à l'édition La Talente. Une recommandation de lecture, Jean-Claude Duniac?
Oui, alors une recommandation de lecture, c'est un autre livre paru à La Talente, il y a peu, d'Olivier Paquet, qui s'appelle Jardin d'hiver. Et qui est un livre que j'ai trouvé absolument étonnant. Bon, j'aime beaucoup ce que fait Olivier Paquet, mais là, on est dans le Olivier Paquet 2.0. Ça se passe dans un certain futur, pas si nécessairement si loin que ça, en Europe, où les pays d'Europe ont commencé à s'affronter, avec d'un côté des gens qui font pousser des plantes mutantes qui attaquent les gens, de l'autre des gens qui ont créé des mécaniques, qui sont des mécaniques à forme d'organique, qui combattent les premières. Et au milieu de tout ça, alors évidemment, Olivier aurait pu choisir un camp, c'est un petit peu ce qu'on attendait de lui, et en fait, pas du tout, il a pris les contrebandiers, c'est-à-dire les gens qui profitent du désordre et ramassent ce qui subsiste dans les champs de bataille, comme les charognards, pour essayer d'en faire quelque chose. Et là, il s'est complètement lâché. C'est-à-dire que d'abord, il a mis en place une esthétique absolument fascinante. Je vous recommande les ponts qui survolent entre l'Angleterre et la Manche, avec cette espèce de vision du Ponte Vecchio de Florence, mais à la puissance 10 000. Et surtout, toutes ces formes de bataille où les arbres, les beaux bosquets d'arbres deviennent des endroits, des pièges, et où les gens sont en permanence en train de se conformer à leurs idées tout en évitant justement ce qui est pour nous la chose la plus tendre du monde. Et ces personnages sont des vrais personnages, c'est-à-dire qu'ils sont gentils, ils sont tendres, et à un moment donné, ils vont devoir choisir leur camp. Et la grande problématique d'Olivier depuis très longtemps, c'est faut-il choisir son camp? Et si oui, sous quels critères? Et là, il est parfait.
Jardin d'hiver, donc, d'Olivier Paquet à La Talente. Jean-Luc Rivera, recommandation à vous.
Ma recommandation, ça va être l'ouvrage de Liu Cixin, Le problème à trois corps, qui est sorti chez Actes Sud. Et là, après avoir visité l'Empire romain du futur, maintenant nous allons nous plonger dans les profondeurs d'un autre grand empire, qui est celui de la Chine. Et dans le problème à trois corps, l'auteur nous livre un très grand roman de hard science, et en même temps avec une intrigue passionnante, parce que la question, c'est quelle découverte révolutionnaire, c'est le cas de le dire, a-t-elle été faite pendant la révolution culturelle, découverte qui justifie la construction d'une base secrète au milieu de nulle part, en Mongolie intérieure? Et que veut dire ce jeu de science-fiction, le problème à trois corps, qui a un succès incroyable dans la Chine d'aujourd'hui, car il mêle une civilisation, c'est la civilisation trisolarienne, à celle de la Chine des royaumes combattants. Ensuite, cette civilisation évolue à l'intérieur du jeu et l'appel de ce jeu se révèle irrésistible. De nombreux scientifiques, du coup, vont mener une enquête qui nous amènera avec eux dans des territoires totalement inattendus. Alors, on peut le lire très facilement parce que les éléments scientifiques sont fort bien expliqués. Et en même temps, c'est une plongée absolument extraordinaire dans la Chine des années 60 et des années 2000. Donc vraiment à lire, avec un dernier conseil pour les auditeurs qui voudraient acheter le livre. Surtout, vous ne retournez pas le livre et vous ne lisez pas la quatrième de couverture. Elle révèle toute l'intrigue.
Bon, ah, ça,
donc faudra, évitez la quatrième.
Il faudrait mettre une jaquette.
Voilà.
Merci messieurs. Je me tourne maintenant vers l'accordéoniste Antoine Guillot, cher ami. Chronique bande dessinée dans Mauvais Genre.
Et chronique bibliophilie et objets voilà. étranges. Et surtout des livres à retourner, contrairement aux conseils qu'on vient de nous donner, car ce sont des livres bifaces et des livres polymorphes. Je m'adresse au mélomane que vous êtes, François Angelier. Vous vous souvenez que dans Don Giovanni, le valet de Don Juan, déroule à un moment à Donna Elvira la liste des conquêtes de Don Juan, son maître, et ces conquêtes sont notées sur un papier plié en accordéon. Et alors, comme vous vous en souvenez, comment s'appelle le valet de Don Juan, il s'appelle Leporello, et ainsi est né le nom officiel du livre accordéon, le Leporello. Donc je vais vous parler de Leporelli, dont le premier, parce que le Leporello est aussi proche dans sa forme de l'emaki, le rouleau d'estampes japonais. Notre ami Nicolas de Crécy, dont on sait l'amour pour le Japon, s'est emparé de cette forme aux éditions Noctambule, où on avait déjà eu un livre formidable de Bézian qui s'appelait Courant d'art, je crois en avoir parlé ici, qui mettait en rapport l'œuvre de Mondrian et les travaux du mathématicien euclidien Oliver Byrne. Et donc ici, Nicolas de Crécy va nous donner ces images du Japon, mais donc sous cette forme dépliable. Le livre s'appelle Yokai et Haiku.
Donnez-moi la couverture, on déplie.
Alors voilà, amusez-vous à déplier Yokai et Haiku. Alors qu'est-ce que c'est que les Yokai? Ceux qui ont vu ceux qui aiment les estampes japonaises, mais même ceux qui ont vu les films de Miyazaki connaissent ces créatures de la forêt, ces génies qui incarnent autant de lieux et de une source, un arbre, etc. Ces monstres pour l'occidental sont en fait des dieux qui peuplent le Japon. Et alors Nicolas de Crécy les a placés dans la ville. Donc on a très souvent ces personnages à la fois monstres et très mélancolique qui peuple la vie. Alors vous pouvez le déplier sur 4 pages par moment.
Lucaso déplié.
Pour avoir ce personnage de moine à tête de chien qui va se promener dans des paysages enneigés. On est très cohérent. Voilà, c'est absolument magnifique, avec des petits haïkus, donc ces petits poèmes extrêmement concis qui ont été écrits par Nicolas de Crécy lui-même. Et alors, encore plus étonnant, un livre, le fameux livre de 23 mètres que je vous chantais tout à l'heure.
Là, on est extrêmement impatient.
Une histoire de l'art, tout simplement, par Philippe Dupuis, le Dupuis de Dupuis et Berbérian. Alors, ce n'est pas une histoire, c'est pas l'histoire de l'art, hein, c'est une histoire de l'art, c'est-à-dire le rapport de Philippe Dupuis à l'art contemporain et à l'histoire de l'art, à Matisse en particulier. Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, si vous avez un enfant de 5 ans qui vient vous demander « Papa, c'est quoi l'art ?» Eh bien, il faut pas moins de 46 mètres pour y répondre, sachant qu'au départ, ça a été conçu pour un site internet formidable, c'est les professeurs Cyclope, et Philippe Dupuis a réfléchi à comment créer de la bande dessinée pour Internet sur le principe du scrolling. Vous savez, cette petite flèche que vous faites pour faire descendre une page. Donc lui, il a décidé de faire une page qui ne s'arrêterait jamais. Donc vous faites descendre. Et alors, autant Nicolas de Crécy travaille l'horizontalité avec les Porello, Philippe Dupuis, lui, travaille la verticalité, avec y compris ce que ça peut permettre en termes de production de bande dessinée. Par exemple, sur cette ligne qui partage ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans l'art, qu'est-ce qui est le conservatisme ou la transgression. Il va jouer comme ça, de passer sans arrêt d'une page à l'autre, avec la figure de Pierre Cabanne, notamment célèbre critique d'art.
Biographe de Picasso.
Voilà, qui avait fait passer le concours d'entrée à l'ENSAD, aux arts décoratifs, à Philippe Dupuis, en lui faisant choisir 3 sujets. Philippe Dupuis avait fait l'impasse sur Matisse. Dans les 3 sujets, heureusement, il ne tombe pas sur Matisse. Il lui aurait voulu parler de bande dessinée. Il lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas choisi Matisse? Parce que je n'y connais rien. Parlez-nous donc de Matisse. Et le livre raconte entre autres comment Philippe Dupuis a appris à apprivoiser Matisse et en faire son peintre préféré. préférés. On a aussi des moments très étonnants sur les amputations dans l'art. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de statues amputées au Louvre? Et Philippe Dupuis nous fait une visite du Louvre comme territoire des amputés, c'est-à-dire les têtes coupées, les bras, les jambes, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a un moment assez extraordinaire aussi où Philippe Dupuis se retrouve au Western, dans vraiment un paysage de Western. Et là, il rencontre trois personnes. Il y a un Indien dit pied de nez, Christian de son petit nom, qui évoque Blutch, grand ami aussi de Mauvais Genre, un certain No, un esclave noir façon Atargul, qui fait des installations de land art avec des balles de coton, et puis un troisième Gugus qui n'est autre que Léonard de Vinci, se promenant avec ses toiles perpétuellement inachevées avec lui. Donc on est dans quelque chose d'à la fois très très ludique et très très érudit, et une vraie réflexion sur l'art, en fait.
Dont 23 mètres d'amplitude.
Alors, vous pouvez le dérouler, ou vous pouvez aussi le voir dans une de ces machines qu'affectionne beaucoup Philippe Dupuis. On l'avait vu au Festival Pulp, et vous pourrez le voir au Festival d'Angoulême cette année. C'est-à-dire que ces 23 mètres sont déroulés sur un tapis roulant gigantesque qui occupe, donc il faut une grande salle pour la montrer, avec un bruit de machine comme ça. Vous pouvez voir dérouler la chose, qui est assez cohérent avec le livre, où il y a aussi des machines très étranges, et le goût de Calder pour ses constructions dans les lesquels on peut se perdre. Le tout est imprimé couleur bronze, donc on a l'impression d'avoir une vraie sculpture entre les mains. C'est assez phénoménal. Et alors pour finir, si là ce n'est pas un Leporello, mais si vous voulez poursuivre la réflexion en bande dessinée sur l'art contemporain, et parce que le livre est aussi inspiré des travaux de Pierre Cabanne, qui avait publié des entretiens avec Marcel Duchamp, Duchamp-Marcel Quincaillerie, une biographie en bichromie verte et rose de Benoît Pretzel, c'est chez Atrabile, et c'est une façon très ludique de rentrer dans l'univers assez déconnant en fait de Marcel Duchamp,
qui était un grand
humoriste dadaïste qui avait dont les œuvres venaient généralement d'un bête jeu de mots. Et comment une personne qui a autant influencé l'art contemporain pour le meilleur et pour le pire, ça désole le Figaro chaque semaine en disant mon Dieu tout le mal que Marcel Duchamp a fait au beau dans l'art, vient de quelqu'un qui est en fait extrêmement discret, qui s'est mis en retrait du monde de l'art en permanence, que de temps en temps faisait ses blagues comme ça, ou des travaux au très long cours, puisque sa toute dernière installation, celle qu'on a découvert après sa mort, étant donné que je donne le titre exact parce qu'elle est trop belle.
Le gaz.
Étant donné premièrement la chute d'eau, deuxièmement le gaz d'éclairage, voilà, donc qu'on découvre après sa mort en 1967, vient en fait de travaux qu'il avait fait 50 ans auparavant, de notes qui étaient prises au moment de la mariée mise à nu par ses célibataires même. Et je vous raconte tout ça. Moi, j'ai appris énormément de choses sur Marcel Duchamp sans jamais avoir l'impression qu'on me faisait la leçon. Donc c'est un travail vraiment d'érudition en bande dessinée remarquable. Duchamp-Marcel Quincaillerie chez Benoît Pretzel. Et puis j'ai pas signalé que le livre formidable de Philippe Dupuis est édité par Air Libre chez Dupuis.
Romain Lucazot, la bande dessinée?
Non.
Non. La musique?
Non plus.
Voilà. La littérature?
Un peu.
L'art?
On termine cette émission bien évidemment avec Christophe Beer.
Catalogue d'une exposition photographique aux rencontres d'Arles 2016, Western Camarguais, coédité par Actes Sud, délimite un espace cinématographique d'aventure méconnu, le delta du Rhône, plat à l'infini, lumineux et peu aménagé. Un bout du monde désolé dans lequel le Far West américain trouva une équivalence française qui perdura jusqu'aux années Yéyé et Johnny Hallyday, se ressourçant en Camargue pour fuir les trafiquants de drogue de « D'où viens-tu, Johnny ?». On retient la décennie pionnière de trois aventuriers. Joey Haman, acteur-cascadeur recruté pour le Wild West Show parisien de Buffalo Bill, le cinéaste Jean Durand et le marquis Folco de Baroncelli, jeune fait libre et ami de Frédéric Mistral, devenu éleveur, séduit par la vie rude des gardiens, la pratique équestre et la nature sauvage des lieux. Haman et Durand tournent déjà des westerns en 1909 dans les plaines de Nanterre. Invités par le marquis à venir planter les caméras au Sainte-Marie-de-la-Mer, ils captent le charme exotique de la Camargue et filment avec une troupe circassienne de nombreux récits d'une bobine. 100 dollars mort ou vif, le railway de la mort, la prairie en feu, pendaison à Jefferson City. Tournage épique dans un no man's land doté d'un seul hôtel précaire et infesté de moustiques assoiffés que les acteurs combattent en buvant du Pernod. Les casse-cou plongent dans les flots du Rhône, sautent dans le petit train reliant Arles, Trinquetaille aux Saintes, sans même prévenir les voyageurs interloqués, renversent un taureau à main nue. Passant de la Gaumont à Éclair, Haman devient lui-même réalisateur et crée le personnage d'Arizona Bill. La guerre 14-18 interrompt ce filon westernien. Une autre figure pittoresque surgit sous l'occupation, Paul Ricard, fabricant de pastis marseillais et féru d'innovation technique et de cinéma. Il rachète les studios de Marcel Pagnol et ambitionne la création d'un Hollywood provençal. À Méjane, au cœur de la Camargue, où il bouleverse les traditions pour se lancer dans la riziculture, l'anisotier confie à Jacqueline Audry les rênes de la Caraque blonde. Conflit familial, tension entre éleveurs et riziculteurs, passion amoureuse entre un ingénieur et Mira, la gitane platine interprétée par l'incendiaire argentine Tilda Tamar. En 1955, il produit encore La loi de la poudre, parodie de western qu'on dit frénétique entre Salin et Roubine, du reporter girondin Christian Plume, oublié des cinéphiles.
Merci Christophe Beer, merci Romain Lucazeau d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous recommande évidemment très très chaudement les deux volumes de Latium à la rencontre donc de phénoménale création donc qui va compter, c'est sûr, dans l'histoire de la science-fiction française, un tour de force entre théâtre classique, métaphysique et space opéra. Et puis un autre texte lisible dans le numéro 84 de Bifrost de Romain Lucazeau. Là, c'est une nouvelle qui correspond, qui concerne directement l'histoire de Latium.
C'est une nouvelle qui se passe quelques milliers d'années avant l'intrigue principale.
Voilà, donc la nécessité de la lire. Je rappelle les autres ouvrages évoqués ce soir. Le clin d'œil du héron et Jardin d'hiver de Jean-Claude Dugnac et Olivier Paquet, c'est aux éditions La Talente. Liu Xixin, c'est la bonne prononciation, monsieur Rivera. Le problème à trois corps, c'est chez Actes Sud dans la collection Exofiction. Duchamp Marchal, Quincaillerie de Benoît Préteseil, c'est chez Atrabile. Nicolas de Crécy, Un monde flottant, c'est chez Noctambule. Et puis les 46 mètres de l'histoire de l'art de Philippe Dupuis, c'est aux éditions Air Libre. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Bernard Laniel, Claire Martin Dugard, Anaïs Isbert, Céline Duchesnay, Jean-Luc Rivera, Jean-Claude Dugnac, Antoine Guillot, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie, ma foi, de Richard Fleischer, dont une pluie de précieux DVD viennent de sortir. Et puis, on ne quitte pas l'antenne de France Culture, bien évidemment, et l'on retrouve Amaury Chardot dans Métronomique. Bonsoir à tous.